Et nous sommes en ligne à présent avec André Caspi, qui est professeur des universités. Bonsoir André.
Bonsoir.
André, alors vous, votre expertise, c'est les États-Unis, mais je voudrais, avant de vous demander votre analyse à vous sur ce que vient de dire à l'instant Stéphane Amar et donc sur ce que voulaient les Américains, je voudrais profiter de votre, justement, la connaissance du pays. Comment ça se passe pour Mandani dans les premiers jours à New York et là ? Parce que donc, lui, c'est un gros idéologue qui se retrouve à la tête du pays le plus juif du monde, après Tel Aviv. Et comment il fait ? Il a baissé un peu les drapeaux ou il prend les gens de front ? Il est comment ?
C'est quand même une situation qui n'est pas très simple, parce que, comme vous le savez, New York, c'est la plus grande ville juive du monde. Et une partie des juifs ont voté pour Mandani, en particulier les juifs libéraux. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a malgré tout des tensions qui existent avec d'autres secteurs de la population juive. Il y a une police, par exemple, religieuse qui a été instaurée, c'est la Shmira, qui a pour but d'assurer la sécurité dans les milieux orthodoxes. Et puis, il y a aussi cette crainte que Mandani revienne plus facilement à ses slogans qu'il a utilisés pendant la campagne électorale et qui ont pour but de soutenir tout ce qui se passe de contraire ou d'opposé à Israël. Donc c'est une situation qui n'est pas très claire. Mais donc je crois que les juifs new-yorkais, ceux qui ont voté pour Mandani, se demandent s'ils ont bien fait, et ceux qui n'ont pas voté pour Mandani se demandent jusqu'où le changement chez Mandani peut se produire.
Mais justement, c'est ça ma question. Parce que premier geste, alors c'était pas le seul, mais dans les premiers gestes, c'est dans la première heure, il devient maire de New York et il signe autorisation, légalisation du boycott avec Israël qui avait été rendu illégal par son prédécesseur. Donc boycott, comme si c'était vraiment l'urgence pour un habitant de New York. Première chose à faire, le boycott d'Israël. Deuxième chose à faire, tout aussi urgente, mettre un terme à la définition de l'antisémitisme qui reconnaît que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Là aussi, il y avait une grosse urgence à l'occuper. Mais enfin, oui. Bon, vous vous dites, non, on est quand même... Ça, peut-être qu'il voulait faire plaisir à son électorat, en fait. Mais là, ouais, on est plutôt...
L'électorat est divers. S'il voulait faire plaisir à son électorat, il devrait prendre des décisions contradictoires. Mais ce que je crois surtout, c'est que, fondamentalement, il a fait le gros dos, il a fait le dos rond au moment des élections, et maintenant qu'il est au pouvoir, eh bien, il va dans le sens qui lui paraît le plus conforme à son idéologie. C'est un danger, ça, pour les Juifs de New York. Donc c'est de savoir jusqu'où le maire peut aller. Évidemment, il y aura un jour de nouvelles élections, mais entre-temps, ça signifie malgré tout que le climat à New York, dans la communauté juive, n'est pas tout à fait à l'assurance ou à la bonne volonté de Mandani. On craint certaines de ses décisions parce que ses déclarations ne sont pas particulièrement cachères.
Wow. Alors, Donald Trump, maintenant, moi, je me pose une question et c'est votre réponse qui m'intéresse sur la façon de faire de Trump. Depuis maintenant, disons, un mois, peut-être depuis l'affaire du Groenland, puis il y a eu aussi la gestion de l'après-enlèvement du président vénézuélien, je me dis, tu sais, Bernard, enfin, donc, c'est vous qui allez nous dire, hein, mais moi, je me dis, tu sais, Bernard, il y a un moment, il va le regretter, Trump, parce que tu ne peux pas éternellement menacer, comme ça, jouer les matamores et reculer. La scène internationale, c'est une assemblée de gens qui sont très méchants. Ils sont très méchants. Regardez les Iraniens, il faut tuer 4000 personnes, on les tue. N'importe qui. Tout le monde est méchant sur la scène internationale. C'est le rôle des chefs d'État de défendre leur pays et d'être méchant. Et vous ne trouvez pas qu'un jour, je ne sais pas encore, là, le Groenland, il va envahir le Groenland, maintenant tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Vous ne trouvez pas qu'un jour, cette méthode de dire « je demande le maximum pour après je me retire et les gens me donnent ce que je voulais à la base », vous ne trouvez pas qu'un jour ça ne va plus marcher ?
Écoutez, je pense que le jour dont vous parlez est assez proche.
Ah, tu vois.
D'abord parce que il va se passer des choses importantes en 2026. D'abord, au mois de juillet, il y aura le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis et il y aura de grandes manifestations, des manifestations qui, sans doute, donneront satisfaction à Donald Trump, mais il ne faut pas oublier qu'en novembre, des élections ont pour but de renouveler complètement la Chambre des représentants et pour un tiers le Sénat. Ça veut donc dire qu'il y a malgré tout, dans ces élections mid-term, un danger pour Donald Trump parce que traditionnellement, les élections mid-term donnent une majorité qui est hostile au président en place. Alors pourquoi serait-on hostile à Donald Trump quand on est américain? D'abord parce que la lutte qu'il mène contre l'immigration clandestine est extrêmement brutale. Il a fait déjà un mort dans le Minnesota à Minneapolis. D'autre part parce qu'il y a un conflit spectaculaire avec la réserve fédérale. Donald Trump voudrait obtenir satisfaction de la part du président. Il ne l'a pas obtenu, mais il est vrai que le président va être remplacé au mois de mai. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les tarifs que Donald Trump a fait appliquer pour l'ensemble du monde contribuent à augmenter les prix au détail. Donc il y a un mécontentement au sein de la population américaine. Et ce mécontentement, ce n'est pas uniquement sur la politique extérieure. La politique extérieure joue un rôle moindre que les conséquences de la politique intérieure. Donc ce que je crois, c'est que l'année 2026 ne sera pas facile pour Donald Trump aux États-Unis. Et quant à l'extérieur, alors là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il domine largement les médias. D'ailleurs, on en a la preuve chaque jour. On ne parle que de Donald Trump. Mais je crois qu'il faut se méfier parce que Donald Trump a aussi des faiblesses. Et ces faiblesses pourraient être spectaculaires dans le courant de cette année.
Vous pensez que c'est un colosse qui peut... ça peut tomber... On dit généralement colosse au pied d'argile. Vous dites
Il n'a pas les pieds d'argile. Ils doivent quand même faire attention parce que sa majorité peut disparaître et par conséquent le mettre dans une situation difficile, par exemple vis-à-vis du Sénat, vis-à-vis de la Chambre des représentants. On ne sait pas. Donc je crois que l'avenir est incertain et malgré les grandes déclarations, malgré les attitudes spectaculaires de Donald Trump, malgré tout l'intérêt que les médias du monde lui accordent, il y a des moments où vraisemblablement il faudra faire face au mécontentement de la population américaine, si mécontentement il y a.
Mais oui, c'est ça. Parce qu'une dernière question. Moi, je vous disais, est-ce que cette façon de faire, là encore, je vois, il a encore publié aujourd'hui sur Truth, oui, j'irai me promener un jour dans un Iran libre. Quel intérêt de parler comme ça quand on est président de la première puissance du monde? Quel intérêt?
Il se vante, au fond.
Mais quel intérêt d'être vantard quand on est l'homme le plus puissant du monde? Ça sert à rien.
Mais non, mais d'accord, mais ça c'est un trait de caractère. Mais simplement, en ce qui concerne l'Iran, il a tenu compte des objections qui proviennent d'Arabie Saoudite et du Qatar. Il a tenu compte aussi des objections d'Israël, parce qu'Israël ne tient pas à ce qu'il y ait une guerre avec l'Iran. Et, Israël est certainement favorable à des opérations ponctuelles, mais pas à une guerre. Et surtout, Israël ne veut pas être la victime d'une pluie de missiles iraniens qui s'abattraient sur Jérusalem ou sur Tel Aviv.
Sur son territoire, oui, en effet.
Et donc ça veut dire que Donald Trump parle beaucoup, parle fort, mais en ce qui concerne le Moyen-Orient, reste relativement prudent.
Allez, ma dernière question. Vous trouvez qu'il est en désaccord avec Netanyahou, qu'il est...
Non.
Ou pas?
Non, je ne pense pas qu'ils soient en désaccord.
Non, parce que l'histoire d'attaquer l'Iran, vous dites, non, finalement, ils voulaient la même chose les deux, mais il y a aussi des Turcs à Gaza.
C'est-à-dire qu'en fait, en ce qui concerne Gaza, je pense que Netanyahou a obtenu satisfaction, puisque aussi bien la Turquie que le Qatar se sont engagés à désarmer le Hamas, ce qui était une revendication de Netanyahou.
Tout à fait.
Et puis, Et d'autre part, l'Israël a tout intérêt à maintenir de très bonnes relations avec Washington. Ça fait partie, si l'on peut dire, de sa politique étrangère et ça fait partie des exigences primordiales.
André Caspi, professeur des universités, spécialiste des États-Unis, merci pour ces explications sur Radio Shalom qui sont toujours très éclairantes. Merci à vous et bonsoir.
Au revoir.